Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà deux. Le retour du débrief de l'ActuTech jusqu'à 21h et puis juste après on parlera beaucoup de médecine et de tech ce soir avec cette expérimentation qui est menée à l'hôpital américain de Neuilly et puis aussi la robotique qui arrive dans la chirurgie avec une start-up qui est franco-américaine et qui arrive à faire des opérations grâce à des robots aujourd'hui. C'est évidemment impressionnant, on rentrera dans les détails tout à l'heure. Pour débriefer l'actu ce soir, bien sûr, Isabelle Bordrier est avec nous, cofondatrice de Retency et ancienne directrice générale de Yahoo France. Perle Bagot, qui est experte en innovation digitale. Nous avons Lucas Perraudin, fondateur de Mula Digital et ancien directeur de Meta Reality Labs. Et Frédéric Simotel. Alors, bah justement, on va parler maintenant de ce deal un peu secret quand même qui a été conclu entre d'un côté Apple et OpenAI. On a beaucoup parlé justement de l'arrivée de l'intelligence artificielle chez Apple juste avant les informations. Est-ce que vous avez une petite idée de ce deal? Parce que visiblement, Fred, il n'y a pas d'argent. Entre...
Mais alors ça,
on aurait pu imaginer
comme d'habitude,
qu'Apple
allait... c'est pas ni Apple ni OpenAI qui ont communiqué, c'est via Mark Gurman qui est l'un des...
Oui, qui en général est très bien informé.
Oui, très bien informé, c'est toujours lui qui donne les meilleurs
informations. Et lui dit que Apple n'aurait pas versé de redevance à OpenAI pour connecter Siri à ChatGPT.
Oui, ils auraient dit tout simplement, écoutez, on va diffuser tellement votre marque OpenAI, tellement votre logiciel que vous allez pouvoir atteindre un public jamais égalé, et puis vous rémunérer peut-être sur ce qui, s'ils veulent la version payante de ChatGPT, comme ça vous pourrez vous rémunérer. Et puis vous pourrez vous rémunérer si des gens viennent connecter les API sur de l'OpenAI et vendre leurs services pour qu'ils apparaissent en premier dans OpenAI, eh bien allez-y. Donc voilà, c'est le deal. Alors, ce qui est un peu étonnant, parce que de l'autre côté, OpenAI, alors tu l'as dit tout à l'heure, des revenus alors en 6 mois qui ont doublé à 3,4 milliards, mais ça veut dire que derrière ils consomment énormément de requêtes et que là ça coûte quand même un peu cher. Oui. Dans les consommations.
C'est Microsoft qui va payer, non, en plus? Parce que c'est sur les serveurs de Microsoft.
C'est ce qu'on va voir.
Isabelle, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle un deal de distribution. C'est des deals de mise en avant du produit auprès des utilisateurs. Et je pense que là, l'enjeu, c'est les usages. ChatGPT doit trouver un modèle économique qui le sorte de synthétiser un email, raconter une histoire ou élaborer pour un jeune lycéen une rédaction sur un sujet où il y aura probablement énormément de fautes. Et donc, il faut qu'il puisse sortir de ce modèle sur lequel il ne pourra pas, à long terme, justifier 100 milliards de dollars de valorisation. Et donc, pour ça, il faut qu'il s'intègre dans les usages de la vie quotidienne. Et Apple, avec le téléphone, alors il y a aussi effectivement Google et Android, est vraiment un objet intime de notre vie. Et donc, s'ils arrivent, grâce aux développeurs et aux applications, à pouvoir offrir des usages qui transforment complètement notre vie quotidienne, ils auront gagné la bataille. Donc c'est effectivement le pari qu'ils font, mais je pense que c'est absolument essentiel pour pouvoir grandir. Et le simple fait, et Apple l'a déjà démontré, d'ouvrir un système, de laisser des développeurs imaginer des nouveaux usages, va leur permettre de grandir et j'imagine très clairement de pouvoir commercialiser leur système.
Et puis ils veulent ouvrir aux autres. Derrière, on va...
Oui, il y aura Gemini,
il y aura Claude et tout ça.
Oui, donc,
bien sûr.
Commences avec la superstar de l'IA aujourd'hui.
Oui,
voilà.
En fait,
voilà, vaut mieux commencer avec
il a peut-être pu jouer la concurrence aussi un petit peu, en disant, attendez, si vous voulez payer trop cher, on va aller chercher les autres.
Et il n'y a pas de coût d'acquisition. Un coût d'acquisition pour un logiciel SaaS, c'est très cher. C'est-à-dire, quand vous voulez valoriser un produit, il faut que votre service soit effectivement impeccable. Là, vous n'avez pas de coût d'acquisition. Vous êtes directement plugué avec l'utilisateur final.
Moi, la question que
je me pose, c'est pour combien de temps? Combien de temps ce deal potentiel, hein, puisqu'il n'a pas été confirmé, est viable en fait? Parce qu'effectivement, là, il y a un enjeu pour OpenAI et ChatGPT vraiment de rentrer dans les usages au plus proche. Apple est un bon partenaire pour ça, mais je veux dire, on peut pas croire que ce modèle, en tout cas, peut durer dans le temps. Donc, combien de temps et quelle est l'étape d'après et comment, en fait, surtout Apple va... Parce qu'à un moment, il va falloir qu'il sorte de l'argent.
C'est comme l'App Store, ils vont faire zéro pendant un an et puis 30%
dans
un an.
On donne la parole à Lucas, puis après vous reviendrez bien évidemment. Lucas, est-ce que tu penses que la marque Apple est tellement puissante en fait que ChatGPT a accepté ce deal en fait de un deal plutôt win-win de partenariat qu'un deal financier?
Une codépendance. Là, on est en train d'assister
si ça s'avère
à,
exact.
On est en train d'assister à une si ChatGPT garde son temps d'avance, si OpenAI, on est en train d'assister à la création d'une codépendance qui est du domaine de ce qu'on a entre Apple et Google sur le moteur de recherche. Donc ne pas se marier, c'est intéressant pour les deux, si chacun pense qu'il est plus fort que l'autre dans le temps. C'est-à-dire que, alors, on parlait des coûts d'acquisition, dans ça c'est vrai, mais pour le coup ça n'est pas vrai. C'est comme Tesla dans l'automobile, ChatGPT n'a pas besoin de faire de marketing pour acquérir des clients ou des utilisateurs parce que l'usage est tellement révolutionnaire et je pense qu'il dépense 0$ en marketing aujourd'hui.
Un usage qui est très faible aujourd'hui, sincèrement. Enfin, qui s'améliore.
C'est l'application dans l'histoire de l'humanité qui a eu la plus grande progression, qui a le plus fort taux de rétention.
Bien sûr, mais aujourd'hui, en termes de création de valeur, c'est synthétiser des mails.
C'est beaucoup plus que ça.
Oui,
c'est beaucoup plus que ça. C'est alors. Modèle économique.
Alors, termine là-dessus sur Apple et sur le ouais. Parce que là, on parle dans
donc
tous
là,
les
on
sens.
A une codépendance qui se crée, ils s'observent, et je pense que c'est bien qu'ils observent. Ça fait effectivement l'utilisateur Apple est plutôt conservateur et pas très aventureux sur la tech, donc ça permet de crédibiliser. Et c'est le modèle gratuit. Apple a un espoir secret qui est que les développeurs vont loquer le modèle dans son écosystème et qu'après, à chaque fois que OpenAI vendra une licence, ils en prendront 30%. OpenAI a une idée comme quoi, s'il passe à des milliards d'utilisateurs, ils pourront en mettre partout et Apple ne sera plus qu'un gatekeeper. Donc, c'est deux mastodontes, deux géants qui s'observent et ils ont choisi de s'observer comme ça. Ça peut durer longtemps. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les prochaines étapes d'itération, elles sont toujours logicielles, elles sont toujours dans les modèles. On parlait des coûts d'inférence. Les coûts d'inférence, ils vont dégringoler. Oui. Ils ont déjà dégringolé 4 os et d'inférence qui est 3 fois moins cher que GPT-4. Donc,
l'inférence, voilà. Rappelons-le, c'est le fait de scroller le web pour.
C'est le fait d'utiliser un modèle d'AI.
D'accord.
On a le training d'un côté qui est extrêmement cher, et là c'est difficile de faire baisser les coûts, et encore qu'il y a plein de choses avec les données synthétiques. L'inférence, c'est je fais une query dans OpenAI, qu'est-ce que ça consomme,
okay.
Et l'optimisation du code pour que ce soit beaucoup moins consommateur en puissance est en route et ça va très vite.
Mais ça me rappelle cette guerre qu'il y a toujours eu, enfin, et qu'il y a encore, hein, d'ailleurs, ça a été l'objet de discussions sur la libre concurrence. Entre être la première page du PC, être la première page de son téléphone portable, Google a été, pendant de très nombreux cas, la première page des ordinateurs quand on l'ouvrait. Mmh. Et c'était des deals de distribution. Et c'était des places qui, effectivement, valaient cher. Alors après, c'est l'usage qui fait la différence. On ne garde Google en première page parce que Google est effectivement efficace en fonction où on garde.
La question, c'est qui a le plus de force.
Voilà. Et donc, c'est celui qui apporte le plus d'usage.
Quand on sait que Google verse, je crois, 18 milliards de dollars par an à Apple pour être, justement, comme tu le disais, le moteur de recherche par défaut du navigateur Safari, on voit quand même que ça a un intérêt pour lui.
La base installée iPhone est extrêmement monétisable, donc ça rapporte beaucoup en publicité.
Bien sûr.
Et ça empêche Apple de développer un moteur de recherche.
Non, mais.
Donc là, c'est la place qui est prise et un morceau de la langue non négligeable.
Puis s'il y avait eu un accord financier trop fort, faut voir que c'est un accord au niveau mondial, il y a peut-être un souci, c'est en Chine, comment on fait ? Parce que t'as les iPhones en Chine et t'aurais pas OpenAI. Enfin, tu vois, s'il y avait un accord, là c'est un accord de distribution. On va dire les gens en Chine ne peuvent pas l'utiliser. Tant pis. Mais tu imagines un truc où on avait un peu verrouillé tout ça. OpenAI aurait pu dire, dis donc, pourquoi mes utilisateurs chinois ne peuvent pas utiliser OpenAI.
Est-ce que c'est pas aussi pour OpenAI le secret espoir de se dire, je vais me retrouver avec des millions, des dizaines, des centaines de millions d'utilisateurs. Il y en a peut-être 1% qui vont me prendre l'abonnement payant à $20.
Bien sûr.
Et ils font le pari qu'ils sont convaincants. Exposé à plus de monde.
Et même dans le partage de valeur sur la monétisation, ce que je disais tout à l'heure, avec un Waze, des trucs de réservation.
Et c'est sûr que là, Apple est une espèce d'aspirateur à clients potentiels en échange de. C'est presque du freemium, quoi, finalement, cette histoire-là.
Ouais.
Non, Perle.
Ouais, c'est la machine marketing pour OpenAI, en fait, Apple.
C'est du marketing gratuit.
Ouais, c'est ça.
C'est rentré dans 1 milliard de vies.
C'est ça.
Mais quotidienne.
Le business model d'OpenAI, si je peux revenir là-dessus, les abonnements, c'est bien, mais ce qui rapporte de plus en plus et qui va être une manne gigantesque pour OpenAI, c'est l'utilisation par les entreprises de ses capacités. On parlait de Stellantis tout à l'heure. On disait, ce qui serait bien, c'est que ma voiture sache où en est la pression de mes pneus. Bon, ça s'appelle un agent AI, c'est-à-dire que Le modèle de langage, il a la connaissance du monde, mais il ne connaît pas la pression des pneus. Aujourd'hui, on développe des agents, nous, c'est ce qu'on fait pour les entreprises. Il va interroger, il sait faire une query, aller interroger la donnée de pression des pneus, la ramener, et interpréter, avoir une conversation sur, et utiliser son modèle de langage.
Donc il apprend tout seul, en fait.
On fait de l'augmentation du langage.
D'accord.
Donc il y a plusieurs techniques. Soit on va faire des queries sur le système, soit on fait ce qu'on appelle du RAG. On rajoute de la connaissance qu'il n'a pas, et on fait de la diminution du contexte pour pas qu'il ait d'hallucinations. Et ça, ça se fait par étapes. Donc on va interroger la pression des pneus, elle retourne. Le LLM a une discussion avec lui-même, hein, c'est ça qui se passe. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on peut répéter cette question plusieurs fois? Et ensuite, il va venir vers nous en disant, attention, la pression des pneus est faible. Et on l'a programmé pour dire, qu'est-ce qu'on doit faire si la pression des pneus est faible? On doit trouver la station-service la plus proche. Donc, il dit, la pression des pneus est faible, la station-service la plus proche est celle-ci, il te reste en essence. Et ça te coûtera moins cher d'aller là-bas.
Que ça marche, hein, ta pression des pneus, parce que là, tout ce que tu nous as raconté.
Mais tu disais tout à l'heure que la puissance de calcul coûte moins cher, mais il n'y a rien. S'il commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs, il y a un moment, ça coûte quand même de l'argent.
C'est cette course-là qui est engagée. Ouais. Ouais.
C'est pour ça que déporter un peu de la puissance dans le PC dans le téléphone, ouais, ça fait sens. Mais effectivement, ces agents intelligents, on nous les a promis et on les attend depuis pas mal d'années. Et là, ça y est, ils marchent. Et ce que fait exactement Red aussi, hein, c'est la capacité de pouvoir interroger en temps réel des bases de données clients en langage naturel avec...
On fait de l'augmentation du savoir spécifique.
Exactement. Ouais.
Et ce que tu disais, c'est que ça va être ça, le modèle économique de ChatGPT.
Ça veut dire qu'il y a plein de devices qui vont taper sur le modèle d'OpenAI à chaque fois que ça fait un aller-retour dans ses agents. Et ça, il facture à l'interrogation de l'API, pour parler techniquement.
Et visiblement, ça facture plutôt pas mal chez OpenAI, puisque en 6 mois, OpenAI a doublé son chiffre d'affaires, les amis, pour atteindre donc 3,4 milliards de dollars. Alors, selon The Information, c'est avant tout les abonnements qui rapportent de l'argent, aujourd'hui, en tout cas. Après, il y a Microsoft qui donne de l'argent à OpenAI. Je crois que c'est 200 millions.
200-300 millions, oui.
Sur 3,2 milliards, c'est presque, on va dire, de la rigolade. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a?
Les accords avec les entreprises.
Les accords avec les entreprises.
Je pense pas que ce soit ça qui est.
C'est les abonnements en premier lieu, non, je pense.
Les accords entreprises, ils sont en POC aujourd'hui ou en small business.
Les accords avec les entreprises. Et quand tu discutes avec des entreprises, elles sont dans des factures plutôt dans les milliers d'euros que les centaines de milliers d'euros. Hein. Enfin, moi, pour celles que je connais avec OpenAI. Donc voilà, il y a un modèle parce que tout le monde se cherche. Effectivement, on fait des POC, on teste un peu
pour
voir. Mais c'est surtout aujourd'hui.
Pour dépenser 10 000 euros. En inférence sur un système entreprise, il faut faire beaucoup de une query, ça vaut un millième de centime. Un millième de centime, 0,00.
Quelques géants industriels français, ils m'ont dit ils dépensent 7 000, entre 6 000, 7 000, 8 000, voilà, pour un usage assez intensif quand même.
Et on a une valorisation qui est de l'ordre de 100 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc il faut en faire des queries, des requests à quelques centimes. Et donc effectivement, ça met en perspective le deal avec Apple, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin, de trouver des nouveaux usages pour les entreprises. Sincèrement, il se passe des choses formidables dans les call centers où on augmente les personnes qui répondent au téléphone. Donc, en termes de satisfaction client, c'est formidable. Mais c'est pas en améliorant la satisfaction client des clients et des call centers et en faisant ce que j'expliquais tout à l'heure des résumés de texte qu'on va être valorisé 100 milliards de dollars. Donc, cette nécessité, et c'est d'ailleurs ce qui était dit par Yann Lequin.
On met en place des business analysts, on fait de la visualisation de données, on fait de l'analyse profonde, de la data science.
Exactement.
Ça, c'est déjà. La création de valeur existe déjà,
mais il faut effectivement que les usages s'en emparent et que les entreprises s'en emparent. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement construire pour justifier la valo actuelle.
Et puis je pense que la valo actuelle, elle vient aussi de tous les usages que l'on voit. Alors là, c'est surtout avec du Microsoft Cloud, mais c'est ce que ça va pouvoir rapporter derrière.
Elle vient aussi du backup de Microsoft.
Voilà, avec le backup de Microsoft qui va revenir en... ça va être des revenus supplémentaires. Pour l'instant, c'est assez faible parce qu'il y a cet échange n'est pas encore... on n'en est qu'au début, mais je pense que les revenus...
Je suis pas inquiet quand on voit tous les modèles de rétention. En fait, on dit que la croissance, ça vient de la rétention. Le niveau de rétention, l'autre jour, c'était down pendant 2 jours. Moi, j'avais des messages de panique partout dans mes emails, quoi, ou dans mes chats. C'est devenu, on est devenu ChatGPT dépendant à une vitesse incroyable.
C'était quand il y avait, quand il y a 15 ans, quand on avait une panne de Google ou de Facebook, en fait.
Internet.
Et ça a pris 24 mois. Enfin, là, je suis pas du tout inquiet pour le futur business model de l'AI. Alors, on verra si OpenAI reste en tête, mais ceux qui vont gagner ce business-là vont dominer le monde et l'économie pendant les 15 prochaines années.
Et notre petit Frenchie, alors, Mistral, il a son épingle à tirer du jeu, à ton avis, ou pas?
Alors, bon, moi, full disclosure, je parle avec des gens qui sont investisseurs de Mistral.
Full disclosure, tu m'as sorti.
Pardon, en français, transparence complète.
D'accord.
Et j'ai fait, notamment, j'étais en Arabie Saoudite il y a 3 semaines avec sur scène des investisseurs de Mistral, hein, donc qui vient de chez Y Combinator. Mm-hmm. Et je trouve que c'est hyper brillant, mais le business model reste à définir et on fait trop comme si le business model existait déjà. Donc on a des gens qui vont sur scène et qui disent moi je suis investisseur Mistral comme s'ils avaient une médaille. Mm-hmm. Le problème c'est que si c'est de l'open source, la création de valeur est un challenge monumental et qu'il faut avoir des stratégies de go-to-market qui soient fortes et il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de business model défini. Et quand je leur dis, alors, tu as dit que tu étais investisseur de Mistral, entre toi et moi, Sriram, pour ne citer que lui qui est chez Y Combinator, c'est quoi le business model? Il me répond, bah, je ne sais pas, il va falloir qu'ils le trouvent, mais ils sont brillants. Je lui dis, ils sont brillants. Et j'en ai eu un autre sous la main l'autre jour qui m'a répondu la même chose. Donc, voilà.
Il n'y a pas de raison que si ChatGPT en trouve un, Mistral n'en trouve pas un aussi rapidement.
Open source versus closed source, c'est pas du tout la même chose.
Je sais bien, mais
Mark Zuckerberg est en train d'enlever tout l'oxygène dans le business open source parce qu'il rend des modèles gratuits extrêmement performants open source. La question, c'est qu'est-ce que je peux faire de plus qui me permette de gagner de l'argent que ce que fait Llama. Et la réponse à cette question est extrêmement difficile à trouver.
Llama est extrêmement pertinent.
Après, Mistral a moins de dépenses. Hein. Ils sont dans un domaine qui est plus. Ils vont pas taper comme OpenAI sur des modèles, notamment des LLM grand public et tout ça. Ils sont beaucoup sur la génération de code et
tout
ça. Ils
veulent faire du privé en entreprise, mais la barrière d'entrée dans ce business n'est pas
contre,
très haute.
Je suis d'accord avec toi. Leur grand souci aujourd'hui, c'est
trouver des clients et trouver un business model.
Trouver des clients, puis surtout
parce que là, ils ont levé 600 millions, Fred.
Puis la facturation token,
pour les États-Unis.
Puis la facturation token, ça va marcher un temps, mais il y a un moment, le token, il a 0,0.
Mais ils sont brillants, la solution technologique est brillante, le business model est un point d'interrogation et
il est plus clair chez OpenAI, tu trouves?
C'est closed source, c'est-à-dire que le code est caché. Eux, ils courent contre des choses qui sont gratuites. La question, c'est ça. Est-ce que c'est Linux ou est-ce que c'est Google? Si c'est Linux, personne ne gagne d'argent avec Linux aujourd'hui. Mais c'est formidable, toute l'humanité y a accès. Pour avoir un business model, il ne faut pas être Linux.
Est-ce qu'ils vont rester d'ailleurs open source? Est-ce que
ils sont obligés d'en sortir, mais le narratif va être difficile derrière. Ouais.
C'est ça. Ils ont une partie déjà qui n'est pas open source.
Oui, c'est ça. Toute l'idée, c'est de faire payer des
Mais c'est vrai que leur souci aujourd'hui, et moi je vois quand tu discutes avec des entreprises qui testent tous du Mistral et tout ça, c'est de... Alors, ils sont performants. Leur chance, c'est qu'ils ont leur talent, c'est qu'ils ont vraiment un modèle performant et pour plein d'usages. Enfin, je voyais une boîte, ils ont des espèces de portails avec, selon les choix, on va choisir la bonne IA. C'est souvent vers Mistral que ça se tourne selon les cas d'usage. Donc, c'est plutôt performant. Mais derrière, c'est ça, quoi. Si c'est juste la facturation token, va falloir en compter.
Moi, je peux télécharger un modèle à 70 milliards de paramètres et le mettre sur mon serveur local ou sur mon PC très performant.
Pourquoi
je devrais payer pour autre chose?
Mais c'est sans doute ce qui manque chez eux, hein, en termes de... Alors, ils sont suffisamment intelligents pour le savoir, ce qui leur manque, mais c'est le chief revenue officer, enfin, c'est celui qui va vraiment regarder le truc à plat et qui va dire, les gars, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, ça va être...
Il faut un modèle enterprise avec un channel. Enfin, moi, s'il y avait une boîte avec qui je voudrais avoir une conversation aujourd'hui, c'est eux. Parce que le business model... On peut pas faire semblant qu'il y a un business model quand on parle, quand les investisseurs sont sur scène, etc. Et quand on descend de scène et qu'on a la conversation, on dit non, mais ils sont bright, ils vont le figure out. Ils sont très bright, mais ils n'ont pas figure out.
Je t'avoue que nous aussi, on aimerait bien avoir des conversations avec eux.
On essaye.
Mais c'est compliqué quand même.
Aujourd'hui, Stripe.
Voilà. On parle d'Elon Musk. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que on aura le temps? Oui, bien sûr, parce que 5 minutes pour 5 ans.
Une minute, 10 milliards.
Voilà, c'est ça. C'est la rémunération de qui visiblement aurait été validée en fait par les actionnaires. Donc la rémunération d'Elon Musk s'élève à 56 milliards. C'est évidemment énorme.
C'est Tesla, alors, hein.
pour Tesla, simplement Tesla, on est d'accord. Là, on ne parle pas de SpaceX.
Et sur 10 ans, si j'ai bien compris. Ouais, voilà. C'est étalé sur 10 ans.
C'est pas mal déjà.
Oui, oui, mais...
Non, mais bien sûr, c'est pas 50 ans.
C'est important.
On est d'accord.
Préciser.
Oui, moi-même sur 15 ou 20, ça me va.
Bien sûr. Mais non, même sur 30 ou 40, il n'y a pas de problème.
Mais la valorisation est de 1000 milliards.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est rien par rapport à la valorisation actuelle.
Oui, c'est clair.
Et alors, je lisais qu'effectivement, il y avait un fonds d'investissement, le fonds d'investissement californien, qui s'en émeuvait, et comme d'autres, comme le fonds norvégien, en disant que c'était, que c'était absolument colossal. Mais quand vous regardez, en fait, les ratios, d'ailleurs c'était évoqué, c'est 140 fois la rémunération moyenne d'un Américain. Quand vous prenez le ratio de Tavares, Stellantis, qui à mon avis est quand même moins disruptif et moins innovant qu'Elon Musk, on est à 540. C'est-à-dire quand vous comparez la rémunération de Tavares sur une année et que vous la comparez avec la moyenne des salariés de Stellantis, vous êtes sur un ratio de 540. Et ça, je suis choquée.
Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs,
pour Elon Musk,
les choux gras de la presse,
c'est quelques pourcents de la valorisation de la société.
Et puis surtout,
donc oui, c'est astronomique et les montants sont incroyables. C'est le budget de la défense en France. Donc c'est invraisemblable. Mais par rapport à la valeur créée,
non, mais tu as raison.
Je trouve que sincèrement,
l'incarnation.
Et puis voilà.
Et l'incarnation.
Sans Elon Musk, Tesla.
Bah, c'est là où effectivement il est très fort. Il a incarné, personnifié cette marque et il est aujourd'hui en tout cas et certainement pour les prochaines années. Tesla, c'est Elon Musk. On enlève Elon Musk, Tesla, qu'est-ce qu'il en reste, du moins en termes de perception et de message pour le marché et donc de valorisation associée à ça.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Elon Musk, Lucas, c'est pas le débat, mais c'est quelqu'un qui incarne.
C'est le budget marketing. Tesla n'a pas de budget marketing, donc 5 milliards 6 par an, c'est le budget. Moi, je trouve ça outrancier comme. Personnellement,
oui,
sincèrement,
c'est énorme.
On peut expliquer. Alors, le pourcentage des employés Tesla qui ont des stock options peut-être, mais puis en Amérique, la richesse n'est pas du tout répartie de la même manière. Donc,
bien sûr.
C'est un peu différent. C'est pas certain qu'il touche son argent. Hein. Là, il a fait revoter les actionnaires, mais il est en procès au Delaware et le juge du Delaware n'a aucune obligation d'accepter le vote des actionnaires, donc ça va encore se discuter. Bon, après, c'est de l'argent privé, il ne la vole à personne. C'est pas de l'argent public.
Il l'a même créé et il va avoir des objectifs. Donc on ne connaît pas les objectifs. Mais il va y avoir des objectifs.
Oui, puis derrière, tu as les gros.
Non, il a déjà réalisé les objectifs. En fait, c'est 2017.
2018.
Donc c'était basé sur l'augmentation de la valorisation.
Là, il est dans les objectifs.
Les gros fonds Vanguard, BlackRock qui sont derrière et tout ça, bon, ça
ils ne sont pas à plaindre non plus. Enfin, voilà, personne n'est à plaindre dans cette affaire. Mais
parce qu'il a fait gagner beaucoup d'argent aux actionnaires. Mais les montants sont astronomiques, je suis absolument d'accord.
Et lui dit que bien évidemment, avec cette rémunération, il fera encore gonfler l'action Tesla et les actionnaires le remercieront. Bon, on verra bien. Mais après la question, alors même si c'est 5 milliards CIRS par an, qu'est-ce qu'il peut faire de cet argent en fait? Est-ce qu'il le réinvestit, par exemple? Est-ce qu'il va rembourser sa dette envers Twitter? Est-ce que c'est pour lancer de nouveaux projets? On sait qu'il était dans une situation financière compliquée avec Twitter, notamment.
Mm-hmm. Il veut aller vivre sur Mars. Ça coûte cher.
Oui, c'est vrai que ça coûte cher.
C'est lui qui est dans une situation compliquée ou c'est Twitter? Parce qu'il a, il est allé...
Il a mis des fonds propres, je crois, non, dans Twitter.
Il y a sur les 40 milliards.
Il y a
12 ou 18 des banques. Et puis lui
il doit y avoir des call margins, donc il doit avoir effectivement mis en contrepartie des prêts, de l'argent personnel.
Si c'est perdu, c'est perdu. Mais là, je ne suis pas sûr qu'il ait des dettes liées à ça. Je ne suis pas certain, peut-être que j'ai une bêtise, mais je pense qu'il a endetté un tas de gens avec.
Mais d'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça qu'il se bat pour cet argent-là. C'est déjà sa caution personnelle. Et puis, je pense que c'est remettre un peu de sous sur...
Sa fortune, c'est 200 millions, hein, juste pour sa valorisation. Donc, c'est un quart de ce qu'il possède déjà. C'est pas non plus... Il est pas dans le besoin. Mais il va certainement le remettre dans d'autres projets, ça, c'est certain.
Si on commence à compiler sa rémunération entre Tesla, SpaceX et puis tout le reste, ça commence à faire beaucoup.
Il vit dans un préfabriqué sur le campus de Tesla, apparemment.
Ah ouais?
Il dort dans les locaux, comme ça.
Il a une tiny house en préfab.
Dans la chaîne de production,
il l'avait dit, pendant le Covid.
C'était aussi le cas des fondateurs de Google et de Yahoo à la grande époque. Ouais. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on n'arrête pas de travailler et d'y réfléchir.
Après, c'est vrai que c'est un personnage un peu particulier, mais ça fait aussi son charme. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ce débrief hyper intéressant, comme à chaque fois. Merci Isabelle.
Merci beaucoup.
Isabelle Bordry, donc cofondatrice de Retency. Merci à Lucas Perraudin.
Merci
Perle d'être passé par le plateau de Tech & Co, experte en innovation digitale, et Frédéric Simotel, qu'on ne présente plus, bien sûr.